Bonjour mes frères et mes sœurs. Récemment, j'ai présenté un sermon sur le pardon de Dieu. Après le sermon, beaucoup de gens me disaient qu'il était difficile d'accepter le pardon de Dieu pour leurs propres erreurs et péchés, qu'il était difficile de pardonner eux-mêmes et aller de l'avant. Notez bien, il est clair que pardonner soi-même ne signifie pas que nous avons l'autorité de pardonner les péchés. Seul Dieu a cette autorité. Mais pardonner nous-mêmes, c'est plutôt l'acceptation émotionnelle que Dieu a pardonné nos péchés et il ne les retiendra pas. Alors, il ne faut pas continuer à se culpabiliser pour les péchés pour lesquels nous avons déjà repenti. Oui, apprenons les leçons d'expérience et efforçons-nous de ne plus commettre les mêmes erreurs. Et laissons également tomber derrière les sentiments émotionnels négatifs et aux pensées à ne pas être accepté et aimé par Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de la miséricorde généreuse de Dieu en tant que fondement à la réalité selon laquelle, lorsqu'on se répand profondément et avec humilité, Dieu pardonne à nos péchés. C'est ainsi normal que nous devrions également abandonner à nos sentiments de culpabilité que le péché introduit dans nos vies. Le titre de cette présentation est « La miséricorde généreuse de Dieu ». Premier grand point. Dieu se révèle généreux dès le début. Tournez avec moi à Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je commence verset 8. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors nous voyons que Dieu a donné à la vie, à chaque arbre, agréable et bon à manger. Et l'homme, verset 16, l'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres de le jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu était très généreux. Dieu n'est pas radin. L'homme était libre de manger de n'importe quel arbre, mais bien sûr, il y avait un avertissement. Si vous mangez de cet arbre-là entraînerait à la mort. Mais Dieu était généreux avec toutes sortes d'arbres, toutes espèces, toutes bonnes choses. Tournez avec moi à Lévitique, Lévitique 26 maintenant. Lévitique 26. Nous voyons dans la première partie de ce chapitre les bénédictions que Dieu a promis à Israël pour obéissance à Dieu. Nous allons simplement lire quelques versets de ces bénédictions. Lévitique 26, je commence verset 3. Lévitique 26, 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres du champ donneront leurs fruits. À peine aurez-vous batté le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain en satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Beaucoup de bénédictions, la générosité de Dieu est bien montrée. Le problème, c'est que l'ancien Israël était désobéissant et ils n'ont pas reçu toutes les bénédictions que Dieu a voulu les offrir. Nous comprenons que dans le millénium, nous comprenons que nous aurons les bénédictions. Le fait des tabernacles, c'est un symbole de le millénium et que nous avons beaucoup d'abondance pendant le fait des tabernacles. Et cette abondance et toutes ces bénédictions que nous voyons en Lévitique 26 seront données à l'humanité dans le millénaire pour leur obéissance à Dieu. Grande prospérité. Maintenant, Matthieu chapitre 5. Dieu est généreux. Matthieu chapitre 5 et verset 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bien sûr, aimez votre famille, vos amis. Aimez beaucoup et même beaucoup plus que même vos ennemis. Mais cela veut dire, aimez même vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car, et notez bien, la générosité de Dieu. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est le but pour nous d'être parfaits comme notre Père est parfait. Et on peut comprendre que nous devons avoir une certaine maturité spirituelle. C'est ce que nous pouvons chercher à atteindre dans cette vie, maturité spirituelle. Nous voyons que la générosité fait partie de la perfection de Dieu. Deuxième grand point. La générosité de Dieu est aussi montrée dans sa miséricorde. Quel est un autre aspect majeur de la nature de Dieu? La miséricorde. Le pardon sans mérite, or le pardon immérité. Retenez à Exode chapitre 34, s'il vous plaît. Exode 34. Nous discutons maintenant un aspect majeur de la nature de Dieu. Exode 34 et verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée, se tient là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui est descendu sur le mont Sinaï auprès de Moïse. Et l'Éternel, c'est bien sûr l'être qui est devenu Jésus-Christ. Verset 6. Et l'Éternel, on peut dire Jésus-Christ, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Notez ça bien, c'est une des premières choses qui est dit sur la nature divine, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Nous voyons ici que la nature de Dieu, c'est premièrement miséricordieux dans ce passage. Dieu est vraiment miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Et c'était annoncé par Jésus-Christ lui-même. Tournez maintenant à Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103, je commence en verset 8. Psaume 103 et verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Les mêmes mots que nous avons vus en Exode. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Voyez-vous, la nature de Dieu est d'être miséricordieux. Il sait combien nous sommes faibles. Aussi maintenant, en psaume 145. Psaume 145. Et verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Quand il est dit l'Éternel est bon envers tous, ça inclut même les méchantes, pour le moment, bien sûr. Il donne le soleil, il donne la pluie sur les bons et les méchantes. Bon, l'Éternel est bon envers tous. C'est son nature d'être miséricordieux. Tournons maintenant à 2 Corinthiens, chapitre 1er. Est-ce que c'est seulement Jésus-Christ ou l'être qui est devenu Jésus-Christ qui est miséricordieux? Non. Notre Père est bien sûr miséricordieux aussi. Nous voyons en 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Nous voyons ici que notre Père céleste, il est aussi le Père des miséricordes et de consolation. Maintenant, Luc 6, et verset 36. Luc 6, 36. Et cette verset, c'est à la fin de un long passage. Nous voyons que Dieu, la dernière partie de verset 35, il est bon pour les ingrates, même pour les ingrates et même pour les méchantes. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Nous sommes appelés d'être miséricordieux comme notre Père céleste. Et dernièrement, dans cette section, Matthieu 5, c'était le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5. Et nous lisons dans la Béatitude, Matthieu chapitre 5 et verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. J'espère que vous allez entendre un sermon récent par M. Peter Nathan sur la miséricorde. Il explique que miséricorde est beaucoup plus grande que simplement pardonner dans le sens légal. Et c'est intéressant de noter, la miséricorde, ça vient avant la paix. Nous allons voir quelques versets après qui soutient cette idée que la miséricorde de Dieu est première et avant la paix que nous pouvons avoir. Ok, troisième grand point. Qu'est-ce que c'est le processus et l'ordre pour arriver à la paix? La grâce d'abord, la grâce de Dieu d'abord, puis la paix. La grâce, ce mot est bien sûr traduit du mot grec charis. Et cela veut dire la grâce de Dieu, le pardon non mérité, mais aussi les bénédictions, la bonté, la générosité de Dieu. La grâce vient en premier, pendant que nous étions encore des ennemis. Jésus-Christ est mort pour nous. Son sacrifice a payé la peine pour nos péchés. Dans beaucoup des épîtres de Paul, il parle, il parle de grâce et la paix dans cet ordre. Par exemple, en 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. L'apôtre Paul écrit que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Notez l'ordre. La grâce vient en premier et puis la paix. La grâce et puis la paix. Et nous voyons cet ordre en 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens. C'est intéressant, en 1 Timothée et 2 Timothée, Paul ajoute un autre mot. En 1 Timothée, chapitre 1er et verset 2. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Paul ajoute la miséricorde, très important, mais la grâce premier, la miséricorde de Dieu et puis la paix arrive. La grâce est pleinement engagée lorsque nous nous repentons humblement. Tourne avec moi à 1 Jean, 1 épître de Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er, et verset 9. 1 Jean, 1er chapitre, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pas 90%, pas 95%, 100%. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 100%. 100%. Nous sommes propres. Alors, il ne faut pas continuer à porter la culpabilité après que Dieu a pardonné nos péchés et nous a purifiés. Maintenant, nous devons retourner à Psaume 51. Psaume 51, c'est un psaume très fameux. Et le roi David a écrit ça après son adultère avec Bathsheba. Psaume 51, je commence verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Les mêmes pensées que nous avons vues en 1 Jean, bien sûr. Verset 9. Purifie-moi avec l'hyssope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, ou restaurez à moi l'allégresse et à la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rende-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Nous voyons, comme j'ai dit, les mêmes pensées ici par le roi David que nous avons vu avec l'apôtre Jean, en 1 Jean. Et en verset 19 de Psaume 51, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu pardonne. Si nous sommes humbles et nous nous repentons envers Dieu, si nous confessons nos péchés et si nous demandons le pardon de Dieu, il est fidèle. Il va nous pardonner. Qui sommes-nous pour ne pas vouloir pardonner nous-mêmes quand Dieu nous a pardonnés? Qui sommes-nous pour continuer à garder une certaine méprise envers nous-mêmes quand Dieu nous a purifiés? Rappelons-nous, seulement Dieu a l'autorité et le pouvoir de pardonner au péché, pas n'importe quel être humain. Le défi est d'accepter que Dieu nous a pardonnés et aller de l'avant. Nous ne devons pas nous culpabiliser après avoir identifié et après avoir avoué, confessé à nos erreurs et péchés. Nous pardonner, dans les articles et citations suivants, signifie simplement cela. accepter la grâce et les miséricordes de Dieu et continuer à faire mieux jour après jour. Madame Leslie Vernick est une conseilleuse avec beaucoup d'expérience avec des personnes qui ont subi des abus émotionnels. Ses parents ont divorcé quand elle avait 8 ans. Sa mère était alcoolique et abusive dans plusieurs façons. Leslie avait une meilleure relation avec son père, qui après quelques années a eu une responsabilité légale pour elle et sa sœur et frère. Elle a écrit beaucoup de livres qui encouragent les personnes qui ont subi l'abus émotionnel de la part des parents ou des épouses ou d'autres. Elle a écrit l'article suivant du point de vue d'une conseilleuse qui essaie d'utiliser la Bible comme base pour aider une femme qui se trouve difficile à accepter le pardon de Dieu. J'ai dû faire quelques petites rédactions, mais en somme, je pense qu'il y a beaucoup de positif dans cet article suivant, et je vais commencer à lire cet article par Madame Leslie Vernick. Quand notre amie chrétienne dit quelque chose comme « Je ne peux tout simplement pas me pardonner », en tant que conseilleuse qui essaie d'utiliser la Bible, comment réagissons-nous? C'est peut-être quelqu'une qui a commis un adultère, qui a subi un avortement, ou qui a fait quelque chose de contraire aux Écritures. Malgré avoir demandé et obtenu le pardon de Dieu, elle refuse de se pardonner à elle-même. Nous écoutons son dialogue interne. Elle se bat un mal en disant des choses comme « J'aurais dû savoir mieux » ou « Pourquoi ai-je fait une chose aussi stupide ?» ou « Je ne peux pas croire que je l'ai fait » ou « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» Et pour certaines personnes, ce dialogue interne se déroule jour et nuit, les tourmentant de chaque erreur, de tout péché, de tout échec. En tant que conseillers qui essaient d'utiliser la Bible, nous essayons sincèrement d'insérer le grand amour et générosité de Dieu dans les pensées de cette personne, en mettant la personne au défi avec la vérité. Nous pouvons dire quelque chose comme « Si le Dieu de l'univers était prêt à venir sur terre, à devenir humaine et se sacrifier pour pardonner nos péchés, qui sommes-nous de ne pas nous pardonner aux autres ainsi qu'à nous-mêmes ?» Pourtant, cette vérité théologique peut être difficile, voire impossible à mettre en pratique par notre amie, alors qu'elle est en train de ruminer ses erreurs stupides, ses occasions manquées ou ses péchés. La grâce de Dieu, bien que reconnue mentalement, n'est pas sa réalité interne. C'est une vérité théologique, mais pas une vérité transformationnelle. Lorsque quelqu'un n'est pas capable de surmonter ou aller au-delà de ses échecs, ses erreurs et même ses péchés, elle peut être coincée dans une spirale négative de regret débilitant, de dépression et même de haine de soi-même. En tant que conseiller qui essaie d'utiliser la Bible, il est important que nous comprenions un moyen majeur de sortir de ce lien interne. C'est plutôt une acceptation de soi-même. Bien qu'elle ait du mal à reconnaître, elle veut être comme Dieu, parfaite et en contrôle de toutes choses. Je continue à lire cet article. Elle pense qu'elle devrait savoir comment bien faire les choses, bien dire des choses, savoir à l'avance qu'elle devrait être la bonne réponse ou quelle bonne solution régler le mieux le problème. Si elle pouvait toujours vivre ainsi, elle se sentirait mieux. Mais lorsqu'elle échoue, qui est inévitable en tant que pécheur, être humain, elle ressent une profonde déception et une honte. Elle ne peut pas croire à quel point elle est stupide, pécheuse, incompétente et responsable. En se battant, elle renforce le message interne selon lequel elle aurait dû être meilleure que cela. Pour beaucoup de gens, avant que quelqu'un puisse accepter la grâce de Dieu, elle doit accepter émotionnellement et pas seulement intellectuellement qui elle est. Il n'y a qu'un seul Dieu, et elle n'est pas lui. Elle est une créature, celle qu'on appelle à la fois sainte et pécheuse, belle et brisée. L'humilité est le seul chemin qui lui donnera la liberté intérieure dont elle aspire quand une fois qu'elle sera humble. Jésus l'appellera pauvre d'esprit et elle sera en mesure d'accepter émotionnellement qu'elle est une créature faible, parfaite, imparfaite et pécheuse qui ne sait pas tout. Puis, elle ne sera plus aussi choquée, honteuse ou déçue lorsqu'elle verra son côté plus sombre, pécheur et plus faible. Ce ne sont pas ses péchés et ses échecs qui lui causent la plus grande douleur émotionnelle. Ce sont plutôt ses intentes ou ses expectations irréalistes envers elle-même et son manque d'acceptation quand elle se trompe. Dans une façon, sa fierté a été blessée. C'est intéressant cette pensée. Sa fierté a été blessée. Elle est déçue de ne pas être meilleure qu'elle. Mais la vérité est que ce n'est pas le cas. En embrassant cette vérité, elle est également libérée pour embrasser et expérimenter la beauté de la grâce. Bon, je vais ajouter un petit commentaire sur cet article par Madame Wernick. Ce que nous avons lu ne signifie pas que nous devrions avoir peu ou pas des expectations ou des attentes pour nous-mêmes. Nous devons avoir des hauts standards parce que nous cherchons avec l'aide de Dieu devenir parfaits ou mûrs comme notre Père Céleste. Dieu veut qu'on devienne mûr et complète et parfaite comme il est. Nous devons savoir simplement où nous en sommes à ce moment. Aussi, pour toute personne qui cherche le baptême, ne pensez pas que vous devrez être parfaite avant le baptême. Nous avons besoin du baptême parce que nous sommes imparfaits, car il n'y a que par son aide spirituelle que nous pouvons vaincre dans cette vie. Quatrième grand point. Comment Dieu considère-t-il ceux qui essaient humblement de le suivre? Tournez avec moi à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 1er. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui cherchent à marcher selon l'Esprit de Dieu, qui cherchent à obéir à Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation. Et aussi en verset 15, même chapitre, Romains 8, verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un esprit de filiation, afin que nous puissions appeler Dieu notre Père. Nous sommes un enfant de Dieu, dans la famille de Dieu, une famille qui est basée sur l'amour, qui peut exprimer l'amour envers les uns et envers les autres, la patience, la miséricorde, la bonté. Il faut accepter le pardon de Dieu et laisser la guérison émotionnelle et spirituelle commence. Cinquième grand point, que devons-nous faire? Tournez avec moi en Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 14. Que devons-nous faire? Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais recherchez la paix avec tous, y compris la paix avec soi-même. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétiez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bon, il ne faut pas avoir des inquiétudes, mais que nos demandes soient portées à la connaissance de Dieu. Et si vous avez besoin d'aide, d'accepter le pardon de Dieu du point de vue émotionnel, demandez Dieu de vous aider. Verset 7. Et la paix de Dieu, notez bien, grâce, miséricorde, et puis la paix viendra. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Choisir à penser à ces choses, et pas sur nos propres erreurs passées. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi, l'apôtre Paul parle, mais les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de l'abus afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Laissez tomber les choses qui sont derrière nous, et tenir la main vers les choses qui vous attendent, les relations de l'amour glorieuse, heureuse, de la paix et de la vie éternelle. C'est un passage très important. Pour résumer et faire une conclusion, dès le début, Dieu s'est révélé généreux. Il est un Dieu qui donne. Il n'est pas radin avec quoi que ce soit. Regardez autour de la nature. Dieu est donc aussi généreux dans son application de la miséricorde. C'est la nature de Dieu d'être miséricordieux, patiente, généreux, gentil, plein d'amour. Le processus pour arriver à la paix intérieure commence par la grâce de Dieu, se poursuit par la repentance profonde et l'application généreuse de la miséricorde. Puis une paix véritable est possible. Nous embrassons la vérité que bien que nous ne sommes pas parfaits, Dieu dans son amour pour nous a payé la peine pour nos péchés. Il nous aime et nous veut pour toujours dans sa famille en tant que fils et fille, fidèle et plein d'amour pour Dieu et pour les autres. Il n'y a pas de condamnation de Dieu si nous marchons humblement avec Dieu, avec une attitude de repentance et humilité. Nous pouvons et nous devons rechercher la paix avec l'humanité tout entière et avec nous-mêmes. Une fois que nous avons profondément repenti de nos péchés, mettons-les derrière. Ils sont pardonnés et faisons meilleur aujourd'hui. Faisons meilleur aujourd'hui. Faisons tous avancer vers la joie, la paix et la vie éternelle dans la famille de Dieu.